Bonjour à tous, Yacouba Ouidraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du mardi 11 février, retour en classe hier pour des élèves de Bukavu après plusieurs jours d'angoisse sur une possible attaque du M23. L'ONU dénonce la détention du président déchu nigérien Mohamed Bazoum et son épouse. Leurs avocats appellent une nouvelle fois leur libération. Au Soudan, les Nations Unies accusent les paramilitaires des forces de soutien rapide de faire obstacle à l'acheminement d'une aide vitale dans la région du Darfour. Et puis, Donald Trump évoque la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour avant une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Au Sénégal, incompréhension et colère des journalistes après la publication de la liste des médias conformes au code de la presse par le ministère de la Communication.
Cette situation met pratiquement tous les employés mal à l'aise. Actuellement, c'est très compliqué.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition en sport. Sami Trabelsi est le nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage. Annonce faite par la Fédération tunisienne de football. Les détails dans une dizaine de minutes, juste après l'économie, mais d'abord le journal. Quelques élèves ont replié le chemin de l'école à Bukavu après plusieurs jours d'angoisse sur l'imminence d'une attaque du M23 et ses alliés rwandais. Le calme règne dans la ville depuis trois jours après le sommet conjoint EAC-SADC de samedi dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Le point avec Eddy Sangou.
C'est hier même qu'a démarré dans la ville, devant le tribunal militaire, un procès pour les quelques 80 soldats des forces armées congolaises FRDC, accusés de meurtre, viol, dissipation des munitions de guerre, fuite devant l'ennemi, pillage, révolte et perte d'armes. La plupart ont été arrêtés à l'aéroport de Kavumu, utilisé pour acheminer des renforts en hommes et matériel sur le front, dernier verrou tenu par les forces congolaises. Les fronts étaient calmes hier après d'intenses combats samedi à une soixantaine de kilomètres de Bukavu, vers lequel les M23 et ses alliés rwandais ont continué d'avancer après avoir pris Goma, selon des sources sécuritaires et locales. La calmie prend place après l'appel régional à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RDC, lancé lors du sommet conjoint EAC-SADC samedi en Tanzanie. Les chefs d'État majeurs des États de l'Afrique de l'Est et du Sud devront se rencontrer plus tard dans la semaine pour sa mise en œuvre effective. L'Union européenne a salué les annonces issues du sommet dont les communiqués finaux n'aient fait aucune mention directe au Rwanda.
L'ONU dénonce la détention du président déchu Mohamed Bazoum au Niger. Selon l'organisation, le président nigérien renversé par un coup d'état militaire en juillet 2023 et son épouse sont détenus de façon arbitraire. Leurs avocats appellent une nouvelle fois à leur libération. Alexandrine Holoyan.
Les privations de liberté de Mohamed Bazoum et de Hadiza Bazoum sont arbitraires, a estimé le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire dans un avis consulté lundi par l'AFP. L'instance qui dépend du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ajoute que la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement Mohamed Bazoum et son épouse et à leur accorder le droit d'obtenir réparation. Dans un communiqué, le collectif des avocats de Mohamed Bazoum estime que l'ancien président et son épouse sont privés de tout contact avec le monde extérieur, y compris leur famille, leurs amis et même leur avocat, depuis la confiscation de leur téléphone en octobre 2023. Seul un médecin peut leur rendre visite pour leur apporter de la nourriture et des médicaments. Interrogé par les Nations Unies, le régime militaire nigérien a répondu qu'il accusait Bazoum d'avoir, entre autres, commandité une attaque avec l'aide des puissances étrangères. En juin, la Cour d'État du Niger, une juridiction créée par le régime militaire, a levé son immunité présidentielle, ouvrant la voie à un éventuel procès. Aucune date n'a été fixée depuis.
Les Nations Unies ont accusé lundi les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée au Soudan de faire obstacle à l'acheminement d'une aide vitale dans la région du Darfour, une région pourtant menacée de famine. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Les restrictions persistantes et les obstacles bureaucratiques imposés par les FSR empêchent l'aide d'atteindre ceux qui en ont désespérément besoin, a déploré la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, Clémentine Kouita Salami. Depuis le début de la guerre, les travailleurs humanitaires ont signalé des obstacles bureaucratiques de la part des deux camps, des pillages de l'aide et des menaces contre les organisations humanitaires. Le monde regarde et il est inacceptable que la communauté humanitaire au Soudan soit incapable de fournir une aide essentielle, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Alors que l'armée contrôle l'est et le nord du Soudan, les paramilitaires maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour, une vaste région de l'ouest du Soudan où vivent un quart des 50 millions d'habitants du pays. La famine frappe déjà 5 régions soudanaises, dont 3 dans l'état du Darfour Nord, et devrait s'étendre d'ici mai à 5 autres districts de cet état, selon des agences de l'ONU.
La corruption menace de faire dérailler les efforts de lutte contre le changement climatique, surtout à cause du détournement d'argent public dédié à la transition énergétique, avertit Transparency International dans un rapport publié ce mardi. Les pays perçus comme les plus corrompus, principalement situés en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, sont très exposés au changement climatique. C'est le cas du Soudan du Sud, de la Somalie et du Venezuela, dernier du classement de l'ONG. D'après la vigie de la lutte anticorruption, ce sont des milliards de dollars de fonds climatiques qui sont volés ou utilisés à mauvais escient.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hamas a annoncé lundi le report de la prochaine libération d'otages israéliens prévue dans le cadre de la trêve à Gaza. En réponse, Israël a ordonné à l'armée de se préparer à tous les scénarios. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le Hamas ne libérera plus aucun otage tant qu'Israël ne respectera pas l'accord de cessez-le-feu, a déclaré un porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abu Obeida, sur l'application de messagerie Telegram. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a aussitôt accusé le mouvement palestinien de violer l'accord et demandé à l'armée de se tenir prête à toute éventualité. Le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahou a parallèlement annoncé le retour de la délégation israélienne du Qatar, alors que les négociations en vue de la deuxième phase de l'accord ont timidement débuté la semaine dernière. Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview accordée à la chaîne Fox News, dont des extraits ont été diffusés lundi, que son plan de reconstruction de Gaza ne prévoyait pas de possibilité pour les Palestiniens d'y revenir après en avoir été évincés. À mi-chemin de la première phase du cessez-le-feu, qui doit durer 42 jours, aucun progrès notable n'a été signalé concernant la suite du processus, qui doit théoriquement conduit à la libération de tous les otages et au retrait total des forces israéliennes.
Toujours en rapport avec cette actualité, le président Donald Trump a qualifié de terrible cette menace du Hamas de reporter la prochaine libération d'otages. Il a promis, je cite, « un enfer si ceux-ci n'étaient pas tous ramenés avant samedi midi ». Le président américain a en outre affirmé qu'il envisageait d'arrêter les aides à l'Égypte et à la Jordanie si elle n'accueillait pas les Palestiniens de Gaza comme le prévoit son plan, une éventualité d'accueil que les deux pays refusent jusqu'ici. Le président Donald Trump a signé un décret fixant au 12 mars la date d'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, sans exception ou exemption. Toutes les importations d'articles en acier et d'articles dérivés de l'acier provenant d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, des pays de l'Union européenne, du Japon, du Mexique ou de la Corée du Sud et du Royaume-Uni sont concernés, indique l'un des textes. Ces mesures affecteraient particulièrement le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis. Donald Trump a évoqué la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour, avant une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Le président américain a répété sur Fox News vouloir obtenir un accès aux terres rares ukrainiennes, expliquant que Washington devait sécuriser l'argent versé, faute de certitude sur l'issue de la guerre. « Je veux récupérer cet argent », a-t-il poursuivi, ajoutant avoir réclamé à Kiev l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares, des métaux notamment utilisés dans l'électronique. Le président ukrainien avait assuré la semaine dernière que son pays était prêt à recevoir des investissements d'entreprises américaines dans ces terres rares, soulignant toutefois qu'une partie de leurs ressources minérales se trouve en zone occupés. Le ministère américain de la Justice a ordonné hier aux procureurs fédéraux chargés du dossier visant le maire démocrate de New York, Eric Adams, d'abandonner les chefs d'accusation de corruption à son encontre. C'est ce qu'ont révélé le New York Times et CNN. L'acte d'accusation mentionnait qu'il aurait usé de son influence auprès des pompiers de New York pour accélérer l'ouverture d'un gratte-ciel abritant la mission de la Turquie auprès des Nations Unies et son consulat général. Selon le parquet fédéral, un système de fausses certification lui aurait aussi permis de lever 10 millions de dollars de fonds publics pour ses campagnes. Premier maire de New York, inculpé dans l'exercice de son mandat, Eric Adams avait plaidé non coupable en septembre. Et puis la Corée du Nord a accusé les États-Unis d'avoir commis un acte militaire hostile après l'accostage d'un sous-marin de la marine américaine en Corée du Sud pour se réapprovisionner. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Alors qu'il exploite ou co-détient déjà plusieurs mines en République démocratique du Congo, le chinois Zijin Mining poursuit son expansion en Afrique avec un investissement de 15 millions de dollars pour le Bankan Gold Project en Guinée. En 2024, Zijin Mining a acquis 10% du projet Koné en Côte d'Ivoire et a racheté le gisement Akiem au Ghana pour 1 milliard de dollars. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré hier que les Africains devaient mobiliser leurs ressources internes et ne plus dépendre excessivement des investissements. Le président sénégalais a mis l'accent sur les échanges intra-africains, le développement des infrastructures énergétiques pour garantir un accès universel à l'électricité et la transformation du système de formation professionnelle. Les économies africaines sont constamment exposées à de multiples crises politiques, climatiques ou énergétiques qui perturbent la contribution du continent au commerce mondial, a estimé la CNUSED, un organe de l'ONU, dans un rapport publié lundi. Avec environ 16% de la population, l'Afrique représente moins de 2,9% du commerce mondial en 2022, indique l'ONU.
À présent, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
La Fédération tunisienne de football a choisi un nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage.
La Fédération a décidé de nommer Sami Trabelsi comme sélectionneur national, a indiqué la Fédération tunisienne de football sur sa page officielle Facebook. Monsieur Trabelsi, 57 ans, avait déjà dirigé les Aigles de Carthage entre 2011 et 2013. En octobre, la Fédération avait annoncé avoir résilié à l'amiable son contrat avec le sélectionneur tunisien Faouzi Benzarti, un des techniciens les plus réputés du pays à la tête de l'équipe nationale depuis moins de 5 mois.
Et puis les matchs des barrages en Ligue des Champions ce soir en Europe, Manchester City ou Real Madrid, ce qui est sûr, un géant bientôt à terre.
La nouvelle Ligue des Champions s'offre un barrage à grand frisson entre Manchester City et le Real Madrid, ces deux derniers vainqueurs, un classique des temps modernes et peuplé de stars qui doutent avant le match aller ce mardi 21h en Angleterre. L'affiche se joue pour la 4e saison de suite sur la plus grande scène européenne et rassemble une foule d'acteurs oscarisés, de Pep Guardiola à Carlo Ancelotti sur le banc, d'Erling Haaland à Vinicius Junior et Kylian Mbappé sur la pelouse. Mais c'est une finale pour la survie entre deux géants décevants, le champion d'Europe 2023 miné par une saison éprouvante et son successeur espagnol, l'inusable Real et ses 15 étoiles européennes affaiblies par une succession de blessures en défense. Le duel sera divertissant et équilibré, a prédit lundi l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui voit dans le futur qualifié une équipe capable d'aller loin en Ligue des Champions.
En tennis, Novak Djokovic assure être guéri à quasiment 100%.
Le Serbe Novak Djokovic, numéro 7 mondial, a affirmé lundi dans une interview à la presse monténégrine que sa blessure à la cuisse gauche était guérie quasiment à 100% et qu'il était prêt à partir à la conquête de son 5e titre à Doha dans 7 jours. Le tournoi est prévu du 17 au 22 février. Le champion serbe de 37 ans, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, avait abandonné en janvier en demi-finale de de l'Open d'Australie à cause de cette blessure, après avoir perdu le premier set 7-6, 7 sur 5, face à l'Allemand Alexander Zverev, numéro 2 mondial. L'ex numéro 1 mondial avait déjà dû déclarer forfait avant son quart à Roland-Garros en 2024, blessé alors au genou droit et opéré du ménisque dans la foulée. Dès son retour sur les courts, il avait atteint un mois plus tard la finale de Wimbledon et remporté l'or olympique à Paris 15 jours après.
Merci Eric. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Kinshasa a pris acte des résolutions issues du sommet conjoint EAC-SADC du week-end dernier à Dar es Salaam sur la guerre qui prévaut dans l'est de son territoire, mais il évoque dans son communiqué un dialogue avec les entités nationales sans reprendre l'expression « dialogue direct » avec le M23. Eddy Issango a joint à Kinshasa le coordonnateur de la dynamique des politologues en RDC, Christian Moleka.
Kinshasa a officiellement pris acte des décisions du sommet conjoint et a tenté de présenter ce qui peut être comme des acquis favorables, à savoir la demande d'un retrait des pays non invités. Ça, c'est le fait, mais également le processus de Nairobi de Luanda qui devait être remis sur sellette, y compris le CONOPS qui permettrait de neutraliser les FDLR. Et donc, ils ont mis en avant les éléments qui leur semblent très favorables dans le communiqué, tout en nuançant sur le dialogue direct. Kinshasa parle d'un dialogue dans le cadre du processus d'Nairobi.
Qu'est-ce que Kinshasa a laissé de côté par rapport à ce qui a été décidé à Dar es Salaam?
L'élément le plus marquant, c'était cette demande explicite plutôt d'un dialogue direct entre les acteurs étatiques et non étatiques, qui laissait entrevoir la possibilité d'un dialogue avec les M23. Et Kinshasa, dans son communiqué, revient sur un processus de dialogue dans le cadre de Nairobi avec tous les acteurs étatiques et non étatiques. Bien évidemment, Kinshasa aurait voulu également que l'on condamne l'agression rwandaise, ce qui n'a pas été le cas dans le communiqué final.
Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que certains pensent que les vues de la SADC ou les propositions de la SADC ont été plutôt diluées dans celles de l'EAC? Quel est votre point de vue par rapport à cela?
Effectivement, parce que la position de l'EAC, qui est celle de ne pas condamner l'agression rwandaise, d'imposer un dialogue direct, a pris le dessus sur les options de la SADC. C'est vrai que la SADC a davantage insisté sur cesser le feu, l'ouverture d'un couloir humanitaire, l'évacuation des blessés et des militaires qui sont tombés au combat, l'approvisionnement de la ville de Goma. Mais sous les questions fondamentales dont comptait Kinshasa, à savoir le refus d'un dialogue direct avec les M23, la condamnation du Rwanda, sur ce point-là, la feuille de route de l'EAC a presque dominé. Et ça peut s'expliquer également du fait que le président sud-africain ne s'est pas déplacé en personne pour prendre part au sommet.
Et comment va s'opérer la suite? Parce que Kinshasa ne parle pas de dialogue direct, mais on sait aussi qu'il y a une initiative de l'Église catholique et protestante. Est-ce que Kinshasa va miser sur ces dialogues-là que proposent les deux églises?
Pour l'instant, Kinshasa attendra que dans les 5 jours, les chefs d'état-major de la SADC et de l'ESS se rencontrent pour essayer de mettre en œuvre de manière plus détaillée les différentes recommandations et une évaluation à la fin de ce mois. Il y a donc des possibilités d'avoir des facilitateurs régionaux qui viendraient également accompagner la mise en œuvre de tous ces processus. C'est une démarche laborieuse avec beaucoup d'étapes à court, moyen, long terme qui prendra du temps. Et donc pour Kinshasa, il s'agit de gagner du temps, à la fois en interne qu'au niveau régional, pour pouvoir peut-être négocier dans le long terme, puisque en même temps, Kinshasa renforce sa position, notamment le sud Kivu à Bukavu, pour que cette ville tienne, et notamment la ville de Kavumu, et qui lui permette de négocier toujours en position de plus ou moins de force.
Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues en RDC.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Sénégal, le ministère de la Communication suscite incompréhension et colère des journalistes après la publication de la liste des médias conformes au code de la presse. Une procédure considérée comme une violation de la loi par les organisations syndicales de la presse. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson Sambou.
Sur les 638 médias déclarés, seuls 258 remplissent les conditions exigées par le code de la presse et 380 sont jugés non conformes par le ministère de la Communication. Parmi ces exclus figurent Dakar Actu. Les employés de ce média, un des plus suivis du pays, ne cachent pas leur incompréhension. Chersad Boufal est le rédacteur en chef du groupe.
C'est une situation qui préoccupe tous les travailleurs. Une décision qui nous prend tous au dépourvu, parce qu'aujourd'hui, toutes les modalités ont été respectées. Cette situation met pratiquement tous les employés mal à l'aise. Actuellement, c'est très, très, très compliqué.
Une situation compliquée dénoncée par les organisations syndicales. Le secrétaire général du SIMPIX, le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication, Amadou Bambakassé, fustige la démarche du ministère et conteste la légalité même de la procédure.
Les textes sont clairs. Nous avons une constitution qui consacre la liberté de création de médias et qui organise l'existence de ces médias-là et qui les contraint au respect de la loi. La loi en question ici, c'est le code de la presse. Ce n'est pas une prérogative de l'État du Sénégal, à travers son ministère, de reconnaître ou de ne pas reconnaître un média.
Mais le ministère de la Communication réfute les accusations de violation de la loi. Selon le directeur de la Communication, ce coup de balai souhaité par les acteurs des médias est plus que nécessaire pour plusieurs raisons. Habibou Dia.
L'objectif pour nous, c'est d'arriver à un écosystème stable, avec des acteurs clairement identifiés, parvenir à une situation à laquelle le Sénégal pourra avoir suffisamment d'outils pour prévenir toute désinformation, tout discours de haine dans les médias et tout écart.
Des explications loin de convaincre les acteurs des médias. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal attend toujours la décision de la Cour suprême sur son recours pour demander l'annulation de la procédure. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, les ressortissants de la culture Atié exécutent un rite traditionnel pour marquer le passage d'une génération à une autre. Il s'agit de la danse des générations, une danse qui est censée donner à ceux qui l'exécutent un pouvoir de guerrier. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Ange Nomenio, nous amène à sa découverte, suivant son reportage.
Nous sommes à Djopé, ville située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Au son du tam-tam qui résonne, un homme exécute des pas de danse assez particuliers. Cette danse appelée danse des générations est un rite d'initiation pour les ressortissants de la culture Atié. Chaque année, une cérémonie est organisée à leur honneur pour exécuter ce rite traditionnel. Charles-Alfred Monet, membre de la chefferie d'Adjopé.
Il y a trois générations, hein, donc c'est à côté de cette danse de génération que maintenant des forces s'élèvent et puis maintenant se représentent dans ces générations-là. Et donc cette génération vient marquer le passage de chaque groupe que je viens de citer. Mbéché, Nyandor et puis Djouba.
Zamblé Bi Jonathan est originaire de la région. Comme tous les jeunes natifs d'Adjopé, il est passé par ce rite traditionnel. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe qui valorise plusieurs danses ivoiriennes.
On dit que le groupe de Gojou est un groupe qui met en valeur, qui valorise même la culture ivoirienne. Quand on parle de valeur de la culture ivoirienne, c'est-à-dire que ce groupe-là fait toutes les danses que compose la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous représentons la danse du Nord, la danse du Sud, la danse de l'Ouest, la danse de l'Est et la danse même du Centre. Nous n'avons pas de danse carrée, mais nous avons une danse, nous représentons plusieurs danses qui font partie de la Côte d'Ivoire. Et nous aimons valoriser la culture ivoirienne à travers les danses que nous faisons.
Cette danse des générations est un moyen pour les anciens de la culture Atié de passer le flambeau à la nouvelle génération. Une manière pour eux aussi d'enseigner les valeurs de la démocratie aux plus jeunes. Nana Clément Abois, chef Atié.
Nos parents, nos défenseurs transmettaient le pouvoir à leurs jeunes par la classe d'âge. Les Tchouba, c'est-à-dire les deuxièmes fils de la génération. Et donc, vers la fin des 20 ans de règne de la génération Tchouba, les membres de la génération ont trouvé nécessaire d'obéir à ces principes.
Donc c'est en cela que j'ai été désigné comme celui qui doit pouvoir transmettre le flambeau à nos filles, les Mouna.
Chez les Atiers, au cours de la fête des générations, la classe d'âge dirigeante passe le flambeau à une autre classe d'âge qui, ayant atteint l'âge de la maturité, aura à son tour à gérer les affaires du village. Ce passage de flambeau par la danse permet de marquer la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Ange Bujoméyan pour VOA Afrique, de retour d'Adjopé.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech sont à Paris pour le sommet international sur l'intelligence artificielle. Le sommet de Paris vise à jeter les bases d'une gouvernance du secteur naissant, alors que les puissances mondiales s'efforcent de jouer un rôle de premier plan dans cette technologie en plein essor. Qu'est-ce qui explique que de grandes puissances s'intéressent à l'intelligence artificielle? Des éléments de réponse avec Kemal Afayon, responsable section Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières. Il est joint par Alexandrine Holoyon.
Cette rencontre, en fait, sur l'intelligence artificielle a pour objectif d'essayer de passer d'un discours de science-fiction à quelque chose de beaucoup plus concret par rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui aujourd'hui est déjà en train de modifier, de façonner de nombreux pans de nos sociétés, alors que dans le même temps, pour beaucoup de personnes, le concept de l'intelligence artificielle aujourd'hui paraît encore abstrait, mais l'intelligence artificielle est déjà présente dans plusieurs domaines. Donc, à travers les discussions, à travers les délibérations, ce sommet sur l'intelligence artificielle envisage de voir, par exemple, dans quelle mesure il serait possible de développer l'intelligence artificielle de sorte qu'elle soit plus éco-responsable, donc une sorte d'intelligence artificielle moins énergivore, par exemple, ou encore que l'intelligence artificielle développe des valeurs humanistes.
On a vu récemment la création de ce que la presse a surnommé l'intelligence artificielle chinoise, la plateforme DeepSeek, qui a provoqué une onde de choc. Est-ce à croire aujourd'hui que la puissance qui contrôle l'intelligence artificielle pourrait contrôler le monde?
Les humains se sentent aujourd'hui attaqués, se sentent menacés dans leur capacité de raisonner ou de créer quelque chose vu les progrès fulgurants que réalise aujourd'hui cette intelligence artificielle. C'est pour cette raison que, au niveau d'Internet sans frontières, nous pensons que la réglementation est vraiment essentielle. Aujourd'hui, il est possible d'éteindre encore une intelligence artificielle, mais rien n'indique qu'à l'avenir, les humains conserveront un contrôle sur son fonctionnement, d'où l'importance de mettre aujourd'hui en place des garde-fous et des règles strictes pour réguler le développement de l'intelligence artificielle.
Avec toutes les discussions en cours et les annonces d'investissements de grandes puissances dans l'intelligence artificielle, on se demande quelle est la place qu'occupe l'Afrique dans cette course. Est-ce qu'il y a des initiatives d'investissement, selon vous, de la part des États africains? Est-ce que le sujet même intéresse en Afrique aujourd'hui?
Oui, le sujet intéresse au niveau de l'Union africaine, par exemple. Il y a déjà une esquisse en termes de stratégie à l'échelle du continent en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Cependant, si la transformation numérique et l'intelligence artificielle offrent des opportunités en matière de développement numérique, elles peuvent également exacerber des inégalités inexistantes et présenter aussi, faire ressurgir aussi des problèmes de cybersécurité. C'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui vital de profiter de la tenue de ce genre de sommet, par exemple, pour s'assurer que l'on développe aussi des formations performantes, des formations adaptées dans les pays africains. Il en va de la sauvegarde des intérêts stratégiques et économiques du continent africain, des entreprises africaines, des populations africaines et des gouvernements africains.
Kemal Afayon, responsable section Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières.
Dans tous ces pays, si on occupe les jeunes, ils ne seront pas des terroristes.
VOA Afrique vous propose une émission spéciale explorant les enjeux sécuritaires du Sahel, notamment l'instabilité politique.
Le système sénégalais a survécu à quel coup? Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Et s'il n'y avait pas eu ce petit déclic de dernière minute, où serait le Sénégal aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le reste de l'Afrique?
Et le rôle des acteurs internationaux.
On pense toujours que c'est l'étranger, mais en nous-mêmes, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à travailler ensemble?
Les crises humanitaires, les défis de la gouvernance.
Nous devons nous lever,
prendre cela avec nos propres forces et quand les autres vont voir, ils vont venir nous appuyer.
Des conflits persistants à l'accès aux soins. Nos invités analysent les dynamiques affectant le bien-être des populations sahéliennes et proposent des pistes de solutions possibles.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouédraogo, Fumé Max Pouyaouida à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.